Il y a une question qu'on ne peut pas s'empêcher de vous poser, Carlos Ghosn. À fin 2022, est-ce que le Renault que vous imaginez, vous en serez toujours le PDG ?
Ah, ça, c'est très difficile de répondre à cette question, puisqu'elle ne dépend pas que de vous. Par contre, je suis très confiant sur le Renault 2022, que je le dirige ou que ce soit quelqu'un d'autre qui le dirige, à condition, évidemment, que nous exécutons exactement ce que nous avons prévu d'exécuter.
Ainsi parlait Carlos Ghosn. C'était le 6 octobre 2017, Ghosn, l'impérator. Bon, 2022, oui, ça ne dépend pas que de lui. Au Japon, le PDG de Renault risque, en théorie, jusqu'à 15 ans de prison. Ses avocats n'ont pas encore réussi à seulement le faire libérer sous caution. Sur le site du constructeur français, ce matin, à la page Management, toujours la photo de Carlos Ghosn, maintenu en poste, présomption d'innocence, bien sûr. Allez, on sait qu'en coulisses, le casting est en cours. Oui, quand le PDG est empêché de faire son travail de PDG, combien de temps est-ce que ça peut durer ? Question importante, il y en a une autre, encore plus intéressante, qui a surgi cette semaine. Libération, qui nous assure que depuis 2012, le patron de Renault, entreprise française avec l'État français au capital, ne payait plus ses impôts en France, mais aux Pays-Bas. Est-ce vrai ? Est-ce une exception ? Encore les Pays-Bas, en tout cas. Tout un passage du discours d'Emmanuel Macron, le 10 décembre, qui s'éclaire. Hein. Il parlait des patrons des grandes entreprises françaises qui devaient payer leurs impôts en France. Évidemment, tout ça n'arrange pas le climat de défiance.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est l'écho comme nous la vivons. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Le Mag Écho est réalisé par Coy Nguyen. Valentin Pérez est attaché de production. Et à la technique, ce matin, c'est Grégory Wallon qui nous accompagne. Je salue mes amis, les débatteurs, Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous, Emmanuel Le Chypre de BFM Business.
Bonjour à tous.
Christian, le spécialiste des paradis fiscaux, encore les Pays-Bas.
Encore les Pays-Bas, paradis fiscal situé au cœur de l'Europe et qui passe son temps à faire des lois qui permettent aux entreprises et aux particuliers, peut-être Carlos Ghosn, d'échapper aux impôts en France. C'est quand même un vrai scandale au cœur de l'Europe.
Ça. Et alors vous dites que vous n'êtes pas sûr que c'est tout à fait un scoop, vous le saviez déjà.
Moi, j'ai pas été surpris. Il y a quand même quelques grands patrons qui sont installés à l'étranger, notamment Carlos Ghosn, le fait qu'il soit pas résident fiscal français. Alors peut-être que je me trompe avec un autre grand patron, mais j'ai pas été spécialement surpris de voir que quelqu'un qui est quand même payé autour de 15 millions d'euros par an, en plus, pense que lorsqu'il paye un petit peu d'impôts, c'est encore trop d'impôts.
Bon, et dans Alternatives, un peu de pub, on n'en fait pas souvent, mais dans Alternatives économiques de janvier, je signale un article très intéressant sur le mythe du grand industriel, signé par Franck Aguerri, professeur à Mines Paris Tech. Le débat ce matin, ben justement, en amont du grand débat national, est-ce que pour sauver la paix sociale, il faut faire payer les riches ? La discussion, elle a rebondi cette semaine, Emmanuel, avec la taxe d'habitation, les revendications sur l'ISF et même avec le salaire de Chantal Jouanneau.
Oui, puis moi, ce qui m'a gêné le plus, c'est à force de parler de ces 20% de Français les plus riches, les plus favorisés, les plus aisés, on en finit par croire que ces 20% de Français, ce sont des riches. Or, en fait...
Attendez, démarrez pas tout de suite.
90% d'entre eux vivent plus comme les 80% de moins aisés que comme les vrais riches.
On va faire cet exercice de définition. Voilà. On se retrouve dans une poignée de secondes. Il y a-t-il un lien entre la désindustrialisation de la France et l'explosion sociale ? Si oui, lequel ? Est-ce que ça s'entend ? Est-ce que ça se voit ? On posera cette question à l'invité du Mag Écho. Ce matin, c'est Louis Gallois. Beaucoup de casquettes pour Louis Gallois. Il est président du conseil de surveillance de PSA. Il est co-président du cercle de réflexion La Fabrique de l'Industrie. Il est aussi président de la FNARS qui s'occupe des Français les plus démunis. On a rendez-vous avec lui dans ce studio à 9h45. Et bien sûr, le rendez-vous de fin, c'est Sandrine Foulon. Bonjour Sandrine.
Bonjour Alexandra.
Ce matin, on a la question d'une auditrice sur une révolte qui n'a pas lieu dans les ronds-points. On va dire que c'est peut-être une guérilla, mais qui a lieu au prud'homme.
Oui, tout à fait. Une question de Mégane sur la barémisation des indemnités prud'homales. Certains conseils de prud'homme refusent de l'appliquer. Mégane veut savoir si ce barème vit ses dernières heures.
Et tout à l'heure. Tout à l'heure, juste avant 10h, Mégane, vous aurez la réponse. Tout de suite, c'est les riches, les pauvres, la justice fiscale, on démêle le vrai du Poujadot.
Janvier 2019.
C'est la volonté en réalité des gens.
François Boulot.
Que désormais la politique serve les intérêts de 99% de la population et non plus des 1% les plus riches.
Gilets jaunes de Seine-Maritime.
Ça veut dire sur le fond concrètement que les gens veulent des augmentations de salaire, une revalorisation du minimum vieillesse, une réindexation des retraites et des allocations familiales sur l'indice des prix. Et pour financer tout cela, ce que souhaitent les gens, c'est que soient remis en cause tous les dispositifs fiscaux qui sont au bénéfice des 1% les plus riches. C'est-à-dire la réforme de l'ISF, la flat tax, l'exit tax et le CICE capté pour moitié par les plus plus grandes entreprises de ce pays.
Que les Français veuillent le rétablissement de l'ISF.
Bruno Le Maire.
On le sait, c'est pas une grande nouveauté.
Ministre de l'économie.
Il se trouve qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République sur la base d'un projet qui a été voté par une majorité de Français. Donc je ne souhaite pas que nous revenions sur l'ISF, sur le prélèvement forfaitaire unique ou sur la baisse de l'impôt sur les sociétés qui doit permettre à nos entreprises de se développer.
Je suis un peu perturbée,
Agnès Michel,
par le fait que le débat se focalise sur des totems comme l'ISF.
Membre du think tank Terra Nova.
Moi j'ai une certaine réserve sur la façon dont il était conçu avant et notamment sa rentabilité. 4 à 5 milliards sur les 100 000 milliards de budget de l'État, c'était relativement anecdotique et je pense que le bon outil de la taxation du patrimoine qui est effectivement un sujet important pour éviter l'augmentation des inégalités au fur et à mesure des générations, c'est taxer plus fortement l'héritage.
De quoi se rend-on compte enfin,
Guillaume Dard?
C'est que la France s'est appauvrie.
Président de la société de gestion Montpensier Finance.
C'est-à-dire que les politiques menées depuis 30 ans ont fini par faire baisser le classement de la France en Europe. On était dans les premiers, on a dû passer, on est au milieu du peloton. La partie de bonneteau est en train de se terminer. On prend à gauche, on prend à droite. Peut-être qu'on pourra prendre beaucoup plus chez les riches si on veut, mais on sait très bien que ça ne changera rien.
Il y a un débat.
Gérald Darmanin.
Dans lequel on va parler beaucoup de fiscalité, ça intéresse manifestement les Français.
Ministre de l'Action et des Comptes Publics.
Moi j'encourage les Français à participer à ce débat, de ne pas laisser simplement entendre ceux qui souhaitent qu'on augmente les impôts. Moi, je suis favorable à toute baisse d'impôts et donc à la suppression totale de la taxe d'habitation.
On est le pays qui redistribue le plus.
Geoffroy Roux de Bézieux.
Ça, c'est factuel, c'est le chiffre de l'OCDE.
Président du MEDEF.
Et c'est là où le sentiment d'injustice est le plus élevé. Ça pose quand même un petit problème. Vous savez, l'économie, c'est la confiance. Et la confiance, il y a besoin de stabilité. Par pitié, il faut de la stabilité en fiscalité. Quel que soit le choix du gouvernement, il faut qu'il s'y tienne.
De la justice fiscale demandée par les Gilets jaunes aux revendications sur le rétablissement de l'ISF, en passant par la sortie du ministre de l'économie Bruno Le Maire sur la taxe d'habitation, on voit bien, on entend bien qu'il y a un débat qui se noue sur les riches et l'impôt. Christian Chavagneux, est-ce que c'est un débat tout neuf ou bien un débat récurrent en France?
Attendez, c'est un classique de l'histoire de l'économie. Alors, en 4e siècle avant l'ère chrétienne, Aristote nous a laissé les réflexions sur la démocratie et sur l'économie. Mais il y avait un débat sur ce qu'on appelait les richesses invisibles et le fait que les riches arrivaient à échapper à l'impôt. Sous la monarchie, vous avez des contrôleurs généraux des finances, l'équivalent des ministres des finances, qui ont essayé de faire payer les riches. Des courageux, hein, parce qu'à l'époque, les riches payaient rien du tout. Le 19e siècle, c'est le siècle des débats sur comment est-ce qu'on fait payer les riches, sur leurs revenus et sur la transmission du patrimoine. Jusqu'à l'avènement 1901 en France d'une taxe progressive sur les transmissions, 1914, l'impôt sur le revenu. Et puis les années 70, rappelez-vous, les batailles entre la droite et la gauche, quand François Mitterrand arrive au pouvoir, il met en place l'impôt sur les grandes fortunes. Donc c'est vraiment un débat récurrent, je dirais multiséculaire.
Emmanuel Le Chypre, est-ce que, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, est-ce que il est facile de définir qui sont les riches de France?
Oui, on peut le
dire. Avec François Hollande, c'était 4000 euros, il me semble.
Oui, vrai. Mais on a l'INSEE qui a fait des travaux sans doute plus exhaustifs et plus sérieux. D'abord, ces 20% de la population les plus aisés dont on a parlé toute la semaine pour savoir s'ils allaient profiter ou pas de la taxe de la baisse de la taxe d'habitation, on finit par croire que c'est eux les riches, hein. Or en fait, ces gens, quand on regarde leur niveau de revenu, on parle quand même pour un célibataire sans enfant de quelqu'un qui gagne 2400 euros par mois, quand vous êtes
brut,
un couple,
alors, brut ou net.
Quand vous êtes 2400 euros net, 2400 euros net par mois, quand vous êtes un couple, c'est moins de 2000 euros par personne dans le couple, et quand vous avez trois enfants, c'est 5000 euros pour le couple à peu près. On est sur des niveaux, si vous ajoutez le patrimoine, c'est souvent une résidence principale, quelques dizaines, voire un peu plus de 100 000 euros d'épargne, voilà. Le riche, c'est pas ça du tout. Si vous rentrez déjà dans le 1% de la population...
Et donc là, vous parliez des 20%,
là, je parlais des 20% de Français qu'on dit les plus aisés, les plus favorisés. Mais ça, c'est pas les riches.
Non.
Déjà, vous commencez à être riche quand vous êtes dans les 1% de la population les plus aisés, et là, déjà, faut arriver à presque 9000 euros de revenus par mois, nous dit l'INSEE, et là vous avez un patrimoine qui est de l'ordre de 1 à 2 millions d'euros. Et puis les vrais riches. Les vrais riches, pas cela. Les vrais riches, c'est les 0,01% de la population. Alors, c'est très peu de gens, ça représente 6500 personnes à peu près en France. Mais là, vous êtes sur des revenus de 50 à 70 000 euros par mois et des patrimoines qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros. Voilà. Ça... Je vous rappelle que quand même la définition du riche que donnait Rockefeller, c'était de dire que vous êtes riche quand vous pouvez vivre des intérêts de votre capital. Vous voyez, donc ça, là, vous êtes vraiment dans les riches. Mais les 20% de Français dont on a parlé toute la semaine, c'est certainement pas
c'était
des
injuste,
gens dont
oui.
on peut dire qu'ils sont riches.
Christian Chavagneux.
On a une définition officielle du seuil de pauvreté, mais on n'a pas de définition officielle du seuil de richesse. Alors moi, j'ai pas tout à fait les mêmes chiffres qu'Emmanuel. J'ai les stats de l'INSEE sous les yeux, là, qui donnent pas tout à fait la même chose. Moi, pour les 10% les plus riches, j'ai 4 700 € net par mois, et pour les 20% les plus riches.
J'ai les mêmes chiffres, Christian. Sauf qu'on parle pas de la même population. Là, c'est les 10%.
En net. Mais pour les 20% les plus riches.
Par personne, hein.
Par personne. Oui, voilà, pour une personne seule, hein. Pardon. Voilà. Pour une personne seule, hein. C'est plutôt 3 700 € net par mois. L'Observatoire des
inégalités. Juste une précision. Moi, ouais. Je vous parlais du seuil. À partir duquel on est exonéré
d'accord.
ou pas de cette taxe d'habitation, donc dont on est considéré qu'on fait partie des 20% les plus aisés. Moi, je vous disais, les 20% qui ne paieront pas. Ça, d'accord. Christian, c'est les vrais 20%.
Moi, c'est les vrais. C'est le revenu moyen des 20% les plus riches et le revenu moyen des 10% les plus riches. C'est pour ça que les stats sont
important cohérentes. De préciser les choses. Okay.
L'Observatoire des inégalités a dit, moi, je vais proposer une définition de qui est riche. Et deux fois le revenu médian. Le revenu médian, c'est la moitié des Français gagnent moins, la moitié des Français gagnent plus. Aujourd'hui, ça ferait 3 400 € net par mois. Pour les 20% tout à l'heure, on était à 3 700. Bon, on n'est pas très très loin. France Portrait Social, qui est un document de l'INSEE, qui est fait tous les ans, tous les deux ans, ils nous donnent, l'année dernière, plutôt en 2017, pardon, ils ont fait un petit calcul en disant, en parlant des Français les plus aisés. Et ils l'ont mis à combien? 1,8 fois le salaire médian. Donc, deux fois.
On est autour de quoi, là?
On est autour d'un peu plus de 3 000 €. Donc, on serait aisé pour l'INSEE à partir de 3 100 € net par mois. Il y a un baromètre d'opinion du ministère de la Solidarité. Et ça, c'est intéressant. Tous les deux ans, ils posent la question aux Français, d'après vous. Quand on est riche, c'est qu'on gagne combien par mois? Et donc, la dernière, c'est pas 2018, c'est 2017. Les Français répondent à partir de 6 800 € net par mois.
Par personne.
Par personne, voilà. On est riche à partir de 6 800. Et pour les très riches, alors pour les très riches, là, j'ai été voir les stats de Thomas Piketty, hein, le fameux laboratoire sur les inégalités. Les 1% les plus aisés, en gros, c'est 165 000 € bruts par an, 11 000 € net par mois. Là, je pense qu'on n'est peut-être pas chez les très très riches dont parlait Emmanuel, mais ça commence à faire un bon revenu.
Et la question, évidemment, pour considérer cette population, maintenant qu'on a dit que l'exercice de définition n'était pas si facile, mais bon, ouais. On a quand même une image, c'est combien de personnes ça représente et comment a évolué la population ces dernières années? Est-ce que on a de plus en plus de nos compatriotes riches, aisés? Je ne sais pas ce que voudrait retenir Emmanuel. Alors, Le Chypre.
C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir par rapport aux autres pays européens, est-ce qu'il y a plus de riches en France? Est-ce que le nombre a augmenté ou pas? Et effectivement, quand vous regardez les statistiques de la Commission européenne, vous voyez qu'en France, les riches sont plutôt plus riches qu'ailleurs dans le reste de l'Union européenne. Si vous prenez les 1% les plus aisés, par exemple, ils ont un niveau de vie mensuel d'environ 7 600 € contre 5 000 € pour la moyenne des 1% de population les plus riches de l'Europe. C'est ce que nous dit Eurostat. Les 1% de Français les plus riches, ils accaparent un peu plus de 3% de la richesse nationale. Comme les Italiens, il n'y a que les Portugais qui font un peu plus. Mais sinon, là encore, les riches, ils accaparent une partie plus importante de la richesse nationale. Il y a un point, à mon avis, qui est spécifiquement français. Et si vous regardez aussi la part du patrimoine, détenue par les riches, elle est plus importante en France qu'ailleurs. C'est quand même le rôle plus important qu'ailleurs de l'immobilier joué dans
c'est ce que
la fortune
j'allais
des
vous
riches.
Demander, oui. Voilà. Est-ce que c'est quand vous dites patrimoine, c'est de la finance, c'est de la pierre?
Non,
qu'est-ce que
c'est ça. Je crois que la spécificité française, si on a plus de riches que les autres, c'est essentiellement grâce à l'immobilier. Et là encore, je crois que le sujet qu'il faut bien dissocier, si on veut être lucide et efficace sur le plan fiscal, c'est de bien faire la différence. Il y a beaucoup de gens qui sont riches, pas parce qu'ils sont entrepreneurs, pas parce qu'ils créent des emplois, pas parce qu'ils créent du ruissellement et de la richesse, mais parce qu'ils ont ce patrimoine immobilier qui n'est pas forcément très productif. Et c'est de ce côté-là qu'il y a sans doute des pistes à creuser.
Alors, Christian.
Élargissons un peu ce qu'Emmanuel a centré sur les 1%. Moi, j'élargis un peu la focale sur les 10% les plus riches. Et là, toujours le site de Thomas Piketty, la part des 10% les plus riches dans le revenu total. C'est-à-dire les 10% les plus riches, ils ont combien de la richesse nationale? En France, c'est plutôt un tiers. En Allemagne, 40%. Aux États-Unis, la moitié. Donc, on a l'impression qu'il vaut mieux être riche aux États-Unis que riche en France. Mais ces stats, elles ne veulent pas dire grand-chose parce que l'acceptabilité des écarts de richesse, ça reste national. Au Japon, on aime moins les écarts entre les riches et les pauvres que en France, et en France, on l'aime moins qu'aux
États-Unis. C'est,
donc oui, c'est vraiment dire que, comme je l'ai dit, que les 10% les plus riches, ils ont un tiers du revenu national contre la moitié aux États-Unis, ça ne veut pas dire qu'il vaut mieux être riche aux États-Unis, sauf à penser que plus on est riche, plus on doit s'accaparer pour soi seul une part du revenu national. C'est quel est le niveau d'inégalité que chaque société est prêt à accepter. De ce point de vue, mon petit baromètre d'opinion du ministère de la Solidarité dont je vous parlais tout à l'heure, j'aime bien, j'ai trouvé plein de choses dedans, donc j'en profite. On a demandé aux Français un PDG d'une grande société. Ça devrait toucher combien par an, par exemple, en termes d'inégalité et d'écart de richesse? Les Français répondent 700 000 euros. Et vous savez que les PDG du CAC 40, en moyenne, ils gagnent 5 millions d'euros.
Voilà. La question aussi, ouais, Emmanuel, la question c'est, on parle d'acceptabilité, la question c'est la justice fiscale, c'est est-ce que la France ponctionne suffisamment les plus riches et voilà, non mais on va la poser comme ça, ou bien est-ce qu'ils sont mieux traités qu'ailleurs par le fisc et que est-ce, voilà, et est-ce que c'est redistribué équitablement?
Bah, je crois que
c'est dans le débat.
La vraie question c'est quelle est l'efficacité de cette politique sur... Il y a les questions de morale et il y a les questions d'efficacité économique.
Okay.
Il y a ce degré, effectivement, qui est propre à chaque pays, de sensibilité aux inégalités, mais deux, vous ne pouvez pas non plus faire abstraction du monde dans lequel vous vivez, et qu'on vit dans un monde concurrentiel, et que les plus riches, eh ben, ils sont mobiles. Et donc, vous devez aussi tenir compte de la pression fiscale que posent les autres. Et ce qu'il faut bien rappeler, c'est que le riche, c'est un trésor national. Le riche, il faudrait le bichonner. C'est-à-dire que le riche, il faudrait qu'il donne, lui faire donner tout ce qu'il peut donner pour l'économie française. Le riche, c'est quoi? N'oubliez jamais qu'un pays, un vrai pays pauvre, c'est pas un pays dans lequel il y a beaucoup de pauvres, c'est un pays dans lequel il y a plus de riches. Parce que le riche, c'est quoi? C'est un... Pourquoi c'est un trésor national? Parce que le riche, c'est quand même eux qui consomment, qui dépensent, qui ruissellent, qui créent des emplois à travers ce côté consommation.
En théorie, oui.
Et puis quand même, ceux qui créent les entreprises, ceux qui sont les entrepreneurs, etc. Je suis désolé, Bernard Arnault, c'est quand même des dizaines de milliers d'emplois. Donc il faut les garder, ces gens-là. Il faut les garder, et donc le but du jeu, c'est d'avoir une fiscalité qui fait qu'ils rapportent à la société sans les faire fuir.
Vous êtes juste sur le principe, Christian, vous êtes d'accord?
Sur
le
les but inégalités du...
Non, le but du jeu de la fiscalité, il faut quand même considérer qu'on est dans un environnement international et qu'en effet le riche est mobile et que avant qu'on
s'inquiète.
Ah non, mais avant qu'on, comme dit Emmanuel Le Chypre, avant qu'on regarde de plus près comment
je
on
vous
fonctionne.
Cite juste un petit
attendez, non, je vais finir cette question, Emmanuel, si vous permettez. Je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire
que le riche est mobile, ouais, et qu'il faut faire attention et garder les richesses
à la pression fiscale.
À la pression fiscale. Oui, sauf que les dernières stats tout à fait parcimonieuses que veut bien nous donner Bercy sur le sujet, c'est que 0,02% des assujettis à l'ISF avaient quitté la France. Donc il y a quelques stratégies individuelles de gens qui s'en vont, comme M. Ghosn peut-être aux Pays-Bas et le patron d'Emmanuel Le Chypre qui est résident fiscal suisse.
Il y a quelques
patrons comme ça, mais l'essentiel des gens restent en France. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec un bon conseiller fiscal, pour payer moins d'impôts, vous n'avez pas besoin de partir de France. Donc le riche, il reste en France. Et le riche qui part, même si M. Ghosn est installé aux Pays-Bas, les actifs de Renault, ils sont en France. Donc les emplois, les actifs, tout ce qui est là, c'est en France. Donc ça, c'est pas un sujet.
On peut ouvrir cette petite parenthèse sur l'ISF? Donc vous dites que...
Attendez, parce que avant l'ISF, vous avez posé la question...
Vous avez parlé de 0,02%.
L'inégalité de traitement fiscal des riches et des autres. Si vous croyez les stats de Thomas Piketty, quand même, arriver au très très haut niveau, les 1%, les 0,1% les plus riches, c'est régressif notre système fiscal. C'est-à-dire qu'ils payent moins d'impôts en proportion de leurs revenus que ceux d'en dessous. Surtout, vous savez qu'en France, on déclare plus d'allocation chômage que de revenus du capital. Ce qui est quand même dingue, ça. C'est quand même dingue. C'est-à-dire que les riches, nous, on est prélevés sur notre salaire et depuis ce mois-ci, on va mettre, les impôts vont même être prélevés sur notre salaire avec le prélèvement à la source, alors que les riches, eux, peuvent plus souvent dissimuler et utiliser l'optimisation fiscale.
Emmanuel Le Chypre.
Non, mais alors, pour diversifier les sources de Christian, parce qu'il n'y a pas que Thomas Piketty qui fait des travaux là-dessus, justement, je voulais citer, alors, une étude que j'ai trouvée dans un magazine génial, qui s'appelle Get, qui est un magazine qui est fait par les chercheurs et les économistes
De
Lyon Saint-Étienne.
Ah,
non,
de Lyon.
Ça c'est non parce que TSE a aussi
ouais,
le tien.
TSE, ouais.
Et alors il cite justement une étude faite au Danemark où il montre que quand vous avez 10% d'augmentation de la fiscalité sur les riches, vous en avez à peu près 2,5% qui partent. Donc la mobilité, elle existe. Donc la réalité c'est quoi? C'est que dans un monde où vous avez une mobilité du capital et des riches qui est très forte et des exigences sociales de plus en plus fortes, vous taxez ceux qui sont le moins mobiles et la réalité c'est qu'aujourd'hui les vrais cocus de la fiscalité depuis des années parce que effectivement, on a baissé la fiscalité sur les entreprises parce que les entreprises sont mobiles. On a baissé la fiscalité, notamment la fiscalité marginale du revenu des plus riches, qui était de 60 à 90% dans les pendant les 30 glorieuses. On est passé de 30 à 60% selon les dans les grands pays à peu près.
Et c'est illégal, ça.
Et voilà, c'est totalement injuste. Merci, et donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la pression fiscale, c'est une cloche, hein, et elle est maximale sur les classes moyennes supérieures. C'est-à-dire, en gros, ceux qui sont trop pauvres pour être riches, trop riches pour être pauvres et pas très mobiles. Et c'est ça, la vraie injustice fiscale aujourd'hui.
On reste là-dessus, Christian. Vous êtes d'accord avec cette image? Merci. Et pour le grand débat national, on a fait notre petit débat du samedi, mais le grand débat national, ça démarre la semaine prochaine. On va voir comment c'est mis sur la table. On va suivre ça. En attendant, l'économie comme elle se passe ailleurs, nous partons, si vous le voulez bien, aux États-Unis, un pays dans l'impasse budgétaire, encore une fois, et là ça dure depuis le 22 décembre.
The federal government remains shut down for one reason and one reason only, because Democrats will not fund border security.
Bonjour Pierre-Yves Dugas.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Washington. Alors Pierre-Yves, ce samedi, le bras de fer budgétaire entre le Congrès et le président des États-Unis devient le plus long de l'histoire américaine. Le nœud du problème, c'est le financement du mur avec le Mexique. La conséquence, c'est que les budgets de certains organismes de l'État fédéral ne sont toujours pas votés. Vu de France, franchement, ça semble ubuesque, mais la question c'est, est-ce que c'est grave ?
Ça n'est pas encore grave d'un point de vue macroéconomique parce que l'impact sur l'activité est encore marginal. C'est une crise qui a un impact sérieux si elle se prolonge. 800 000 fonctionnaires sont concernés par ce shutdown et en gros, la moitié de ces 800 000 doit aller travailler sans être payé. Leur salaire ne sera payé que rétroactivement lorsque le budget de leur agence sera finalement voté. Alors bien sûr, pour les fonctionnaires concernés, c'est très grave. Certains d'ailleurs ne peuvent plus payer leurs échéances de prêts. Ils sont obligés de vendre certaines de leurs possessions. Leurs banques leur ont fait savoir qu'elles allaient leur accorder une période de grâce pour leurs échéances. Certaines administrations sont en revanche pleinement financées. Le département de la Défense, qui est la plus grosse agence fédérale américaine, le département du Travail, le département de la Santé, par exemple. En revanche, c'est vrai, le département de la Justice, de la Sécurité intérieure, de l'Agriculture, du Commerce, sont littéralement pris en otage. Les audits fiscaux sont interrompus. Le régulateur des marchés boursiers ne peut plus accepter de nouveaux dossiers d'introduction en bourse. Pour autant, la vie continue. Les polices, les hôpitaux, les écoles, le courrier, les trains, les avions fonctionnent normalement. On estime en gros qu'une semaine de ce shutdown coûte 0,05% de PIB aux États-Unis.
Et Pierre-Yves, ce shutdown, on le sait, hein, c'est une méthode politique récurrente de bras de fer aux États-Unis. Là, ça bat un record. Est-ce que ça peut durer encore longtemps ?
Ça bat un record en durée, mais pas en ampleur du shutdown, hein, puisqu'il n'y a que, entre guillemets, 800 000 fonctionnaires concernés sur un total de fonctionnaires fédéraux de 4 millions. Mais c'est une crise qui est totalement artificielle. Il n'y a pas de véritable négociation entre la Maison-Blanche et les démocrates de la Chambre. C'est un bras de fer médiatisé, j'ai envie de dire, c'est de la télé-réalité. Une crise délibérément provoquée par le président Trump, qui prend en otage 800 000 fonctionnaires pour démontrer qu'il est prêt à tout, pour défendre ce qu'il prétend être l'identité de l'Amérique, pour protéger les Américains de ce qu'il décrit comme le péril de l'immigration venue du Sud. Un compromis serait très facile à imaginer. On parle de moins de 6 milliards de dollars sur un total de dépenses fédérales de 4 000 milliards. Mais pour le moment, chaque parti considère que l'horloge tourne en sa faveur et les démocrates, comme le président Trump, pensent qu'il va tirer parti de cette crise.
Pierre-Yves Dugas avec nous depuis Washington. Merci à vous, merci aux débatteurs Christian Chavagneux et Emmanuel Le Chypre. À venir dans la prochaine demi-heure, l'invité du Mag Éco, c'est l'industriel Louis Gallois. Nous sommes un des pays qui a été le plus touché par la désindustrialisation. Aujourd'hui, où en est-on ? Et bien tout de suite, nous sortons du studio avec notre reporter, Anaëlle Verzo, pour un bilan de santé de l'industrie française. Évidemment, on commence par les dossiers chauds.
Alors on se trouve à l'esplanade de la Défense et on est devant la grande tour Galilée où se trouve General Electric et c'est là qu'on a rendez-vous avec Alain Odor qui est délégué syndical CFDT chez General Electric.
Alain Odor, je suis bien le délégué syndical central CFDT pour la partie Power System de General Electric.
Alors j'ai lu ici et là que l'année 2019 risquait d'être une année noire pour la General Electric de Belfort.
Alors une année noire qui va se rajouter à celle qu'on a déjà connue. Parce que depuis que General Electric a réintégré la partie énergie du groupe Alstom, on subit déjà plusieurs restructurations. Il faut savoir que dans la partie Power System qui nous concerne, en 2016, on a supprimé près de 700 postes.
700 postes à l'échelle française, alors que la promesse qui avait été faite...
c'était de fermer aucun site à l'échelle française. Donc ça, ça a été respecté, même si sur certains sites, il y a eu des réorganisations et des restructurations d'engagés. Et le deuxième engagement, bien sûr, c'était à l'échelle des 3 ans, donc à fin 2018, de créer 1000 emplois supplémentaires à l'échelle française, toute entité General Electric confondue. Et ça, bien sûr, ça n'a pas été respecté.
Et alors, Alain Ogor, qu'est-ce que vous craignez là pour l'année 2019 ?
La partie gaz, le marché gaz est très mauvais aujourd'hui dans le groupe General Electric. On a à peu près 4 sites à l'échelle mondiale pour fabriquer du gaz, alors qu'aujourd'hui, au vu de la charge et des commandes qu'on a pour les 2 ans qui viennent, avec un site, on arriverait quasiment, en le faisant tourner plein pot, à faire toutes les commandes qu'on a. Maintenant, on sait ce qui se passe aussi parce que des annonces ont été faites à l'échelle européenne. La partie Power, qui a une grosse division du groupe General Electric, est en difficulté financière. Donc forcément, cela veut dire qu'on peut s'attendre à des décisions. Maintenant, est-ce qu'on sera touché à l'échelle française, à l'échelle belfortaine ? On le saura peut-être bientôt. Il y a eu déjà 12 000 suppressions de postes qui avaient été annoncées par M. Fladry, dont près de 5 000 à l'échelle européenne. La France avait été épargnée parce qu'il y avait l'accord avec l'État. Donc maintenant, les salariés à l'échelle française nous disent « Oui, mais il n'y a plus d'accord maintenant. Il n'y a plus d'accord depuis fin décembre. Comment on va être traité ?»
L'accord qui les protégeait est caduque. Ils sont inquiets. On l'entend, les salariés de General Electric, surtout les 4 000 de Belfort, les Power. Ceux qui travaillent sur le nucléaire, les turbines, une réunion importante serait prévue la semaine prochaine. Et des dossiers chauds, il y en a d'autres. Par exemple, les 850 salariés de Ford, à Blanquefort, près de Toulouse. Là, c'est très clair, le constructeur automobile veut fermer l'usine. Mais au-delà de ces cas médiatiques, comment va l'industrie en France ? On sait qu'il y a eu une embellie en 2017, et ensuite, et aujourd'hui. Ce sont des questions. Premier élément de réponse à la Banque publique d'investissement, là où on soutient la French Fab, c'est-à-dire en français le tissu industriel, le directeur général Nicolas Dufourcq veut croire au début de la reconquête industrielle.
Nous ouvrons plus d'usines en France en 2018 que nous n'en avons fermé. Alors le delta n'est pas énorme, hein. Il est de un petit peu moins de 20, la différence. Hein.
Et de donc, 20 usines.
20 usines, oui. Et donc, quand on regarde le nombre d'usines qui ont fermé dans les années noires, hein, qui étaient les années de la crise financière, 2008, 2009, 2010, 2011, etc., qui se comptent en quelques centaines, on voit qu'il faudra de nombreuses années pour retrouver le nombre d'usines que nous avions en 2006. Hein.
Alors, pardon, ça correspond à combien d'usines ? Parce que j'ai lu dans l'article d'Usine Nouvelle qu'il y avait 122... extension ou ouverture d'usine, et donc réellement 60 ouvertures d'usine pour 2018.
Oui.
C'est les chiffres que vous avez aussi ?
C'est ça, c'est l'ordre de grandeur absolument, et s'agissant des fermetures, c'est également l'ordre de grandeur. Voilà. Donc on compte un nombre relativement limité d'usines, mais la tendance est positive, il faut quand même qu'on le sache. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, d'abord, on a décrété 2019 année de l'industrie, avec l'ensemble des partenaires, France Industrie, l'Alliance pour l'Industrie du Futur, le ministère de l'Industrie, BPI France, les centres techniques. Et nous lançons la semaine prochaine une tournée de 60 villes de ce que nous appelons la French Fab, c'est-à-dire l'équivalent pour l'industrie de la French Tech. Et donc notre grande tente de cirque de la French Fab avec ses bus va s'arrêter dans 60 villes, en commençant par Laval le 15 janvier, donc la semaine prochaine. L'année 2019 est très particulière parce que, comme le Premier ministre d'ailleurs l'a annoncé dans 2 discours importants qu'il a fait en septembre et en octobre, il y a un suramortissement pour les investissements robotiques des PME et des entreprises françaises dans l'industrie. Ce suramortissement, il ne dure que 2 ans, donc c'est le moment d'investir dans la robotique. Deuxièmement, il a été décidé, et c'est BPI France qui est opérateur, de faire passer 950 entreprises dans nos accélérateurs. C'est des programmes lourds avec du conseil, de l'enseignement, des voyages à l'étranger, du coaching, du parrainage, enfin on est vraiment avec eux, et les résultats sont tout à fait remarquables.
Fyodor Rylov, avocat qui depuis des années défend les ouvriers victimes de licenciements, les Conti, Samsonite, Delcey, UPS, 3 Suisses, Goodyear, ne partage pas cette vision volontairement optimiste du directeur général de la BPI.
Dire qu'en 2018, il y aurait un rebond de la création de sites industriels dans ce pays, C'est absurde pour la raison suivante. Entre 2006 et 2015, l'INSEE a constaté que près de 27 000 entreprises industrielles avaient fermé leurs portes. Alors s'il faut convertir ça en fermeture d'usine, comme les entreprises industrielles ont souvent plusieurs usines, on est probablement pas loin de 35 000 usines fermées en moins de 10 ans en France.
35 000 usines.
Et si on parle du nombre d'emplois qui a été sacrifié, on est au-dessus d'un demi-million. L'INSEE fait le constat cette année que la France est le pays de l'Union européenne dans lequel la part de l'industrie au sein du PIB est la plus faible.
En Allemagne, l'industrie représente 20% du PIB. En France, on est à 10%. Mais si on veut chercher des signes d'éclaircie, il faut peut-être aller voir du côté du Made in France. Olivier Vachtok, directeur associé de la société de conseil en achat Agile Bayer, constate que les entreprises elles-mêmes achètent de plus en plus de la fabrication bleu-blanc-rouge.
Alors, ce qu'on constate avec le Made in France, c'est que ça a été une évolution lente, mais effectivement, on voit des résultats nouveaux. Au départ, je vais raconter une anecdote. Quand Arnaud Montebourg s'est intéressé au Made in France, il a posé les questions aux entreprises et on s'est rendu compte que la majeure partie des entreprises ne mesurait pas le pourcentage de leurs achats Made in France. C'était pas dans leur radar, c'était même pas un critère. Donc la première évolution qu'on a vue dans les entreprises, c'est qu'elles sont mises à mesurer leur pourcentage d'achats Made in France. Et donc, à partir du moment où elles l'ont mesuré, eh bien, petit à petit, c'est devenu un critère d'attribution de business. Et aujourd'hui, on peut dire que d'une façon général, il y a plus de 53% des départements achats qui considèrent le Made in France comme un critère d'attribution de business. L'année dernière, il n'y en avait que 46%, et l'année d'avant, il n'y en avait que 31%. Donc, c'est une belle évolution.
Est-ce que, d'après vous, le Made in France se développe suffisamment pour favoriser une réindustrialisation de la France ?
Je ne sais pas si on est dans une réindustrialisation de la France. Par contre, on est dans une logique où ça va plus remplir les usines. Et donc, ça, c'est un bon signal.
À l'Université de Reims, le géographe François Bost étudie ces mouvements d'industrialisation-désindustrialisation. Et cette idée d'une France qui se réindustrialise, mais avec peu d'emplois à la clé, il la valide. Alors François Bost, quelle est la réalité de la réindustrialisation en France ?
Alors, ce n'est pas un phénomène qui s'accompagne de création d'emplois nombreuses. Quand on crée aujourd'hui une usine nouvelle, ce ne sont que quelques dizaines d'emplois qui sont créés au moment du lancement. Donc, on est loin des mastodontes de plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'emplois.
Qui sont détruits par ailleurs.
C'est clair, parce qu'il ne faut pas oublier que pour un emploi industriel, en moyenne, vous avez au moins 3, si ce n'est pas 4 emplois dans les services qui sont générés. Un autre point qui mérite examen, c'est que dans le contexte de réindustrialisation, on voit qu'il y a déjà des secteurs d'activité, des entreprises qui peinent à trouver des personnes qualifiées. Mais aussi, tout simplement, une main-d'œuvre. Ça, c'est quelque chose que l'on a découvert lors de la visite du président Macron dans cette usine de cet équipementier automobile dans la Creuse. Il avait fait remarquer qu'il y avait de l'emploi à 100 km plus loin. Mais en fait, la réponse des populations concernées a été immédiate. C'est vrai que le coût du transport, si ça devait être un transport journalier pour devenir un aveteur, est un coût extrêmement élevé. Et un des éléments qui explique la mobilité plus faible de ces gens, c'est-à-dire du personnel, des contremaîtres, des ouvriers notamment, c'est très souvent parce qu'ils sont déjà propriétaires. Et ils savent qu'ils ne pourront pas retrouver un logement identique dans un territoire plus dynamique où les coûts de l'immobilier ou du foncier sont beaucoup plus importants. Et surtout, dans ces territoires en crise, on assiste déjà à une baisse de l'immobilier. Et donc ces gens savent qu'en vendant, ils vendront dans des conditions qui sont souvent très mauvaises. Donc c'est un des éléments aussi qui explique la très faible mobilité des personnes.
Début 2019, un bilan de santé de l'industrie française. C'était le reportage d'Anaël Verzo.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et nous poursuivons la réflexion avec un homme aux multiples casquettes. Il est co-président du cercle de réflexion La Fabrique de l'Industrie. Il est également président du conseil de surveillance du groupe PSA. Ça vous dira peut-être quelque chose si je vous dis qu'il est l'ancien patron de la SNCF et d'Airbus. Bonjour Louis Gallois.
Bonjour.
Vous êtes aussi, et c'est une casquette à laquelle vous tenez, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Ça, ce sont des associations qui s'occupent de 9 millions de personnes,
c'est
en fait.
C'est 850 associations de lutte contre l'exclusion, beaucoup des très grandes associations que vous connaissez.
Louis Gallois, est-ce que vous faites le lien entre la désindustrialisation et l'explosion sociale aujourd'hui ?
Oui, une partie du lien. Bah, ça n'explique pas tout, mais il est clair que les régions désindustrialisées, celles qui souffrent, qui ont l'impression d'être mises à l'écart des dynamiques, et notamment de la dynamique de la mondialisation ou de celle du numérique, ces régions sont particulièrement impactées par le mouvement des Gilets jaunes. Et je pense qu'il y a un lien entre les deux. Ce sont des régions où il y a une certaine désespérance.
Est-ce que vous pouvez dire qu'on en a fini avec cette désindustrialisation? Parce qu'on sait que les usines, on l'a entendu, hein, le géographe nous l'a dit, elles sont pas que dans les grandes villes, loin de là. Il y a quoi, la moitié ou le tiers de l'emploi industriel dans les petites villes?
Elles sont même plutôt, effectivement, proportionnellement, dans des villes de taille moyenne. D'ailleurs, d'où les drames lorsque des usines ferment. Actuellement, depuis le début de la décennie 2010, la part de l'industrie dans le produit intérieur brut est stable. Elle est à 12% à peu près.
On a dit 10%,
ça dépend ce qu'on met dedans, et on peut même aller jusqu'à 14% si on compte les industries extractives, etc. Bon, on est à 12%. Et cette part ne baisse plus. La compétitivité elle-même est stable. Elle a été la compétitivité prix par rapport aux pays de l'OCDE, par exemple, qui avait connu un creux très fort en 2010 et un autre creux en 2014, est remontée, pas tout à fait au niveau de 2000, mais elle est sensiblement remontée. Donc il y a un mouvement. J'entendais Nicolas Dufour dire qu'il y a un mouvement. Oui, il y a un mouvement. Il n'est pas massif, et d'ailleurs rien ne sera fait dans le court terme. C'est un mouvement qui doit prendre beaucoup de temps. Et d'ailleurs l'objectif, je pense maintenant, au-delà de la compétitivité, c'est de réussir à convaincre les industriels français et étrangers d'investir dans l'appareil de production en France.
Donc ça, c'est l'attractivité. Mais est-ce que, pour simple, est-ce que vous diriez qu'on en a fini, on a stoppé la désindustrialisation, c'est ça la phrase ?
Actuellement, cette désindustrialisation ne se poursuit pas.
D'accord.
Alors elle peut reprendre.
Ben, par exemple,
mais elle est quand même à un niveau suffisamment, l'industrie est à un niveau très bas. J'ai l'habitude de dire que la France a une industrie trop petite pour son économie. Trop petite, ça veut dire que nous n'avons pas les moyens d'équilibrer notre balance commerciale. Et ce n'est pas un problème uniquement de compétitivité. Et même actuellement, ce n'est pas un problème de compétitivité.
On a déjà beaucoup baissé le coût du travail, par exemple.
C'est un problème. Le goulot d'étranglement, c'est que nous ne produisons plus les quantités nécessaires pour faire face à la demande. Regardez l'année 2017, qui a été une année excellente. Les entreprises industrielles étaient chargées à 85%, c'est-à-dire elles étaient totalement chargées. Elles refusaient des commandes. Les carnets de commandes s'allongeaient. Eh bien, la balance commerciale, c'est 62 milliards de déficit. Parce que nous n'avons pas été capables de fournir. Soit parce que les productions n'existent plus, soit parce qu'en quantité, on n'arrive pas à produire. Donc il faut faire sauter ces goulots d'étranglement qui font que les industriels n'investissent pas ou pas suffisamment dans la croissance de l'appareil de production.
Est-ce que, par exemple, la disparition de l'ISF, vous avez vu que ça a ruisselé, ça fait de l'investissement dans l'industrie ?
Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de relations entre l'ISF et l'industrie. Pour être tout à fait clair,
on cherche à quoi peut servir la suppression de l'ISF. On cherche là où ça ruisselle. Hein, et
écoutez,
c'est une question neutre.
Je crois
que
vous avez eu un débat tout à l'heure sur le fait de savoir si la suppression de l'ISF a conduit d'honnêtes Français à rester en France plutôt que d'aller en Belgique. Je n'en sais rien. Je ne suis pas un spécialiste de cette question. Moi, j'accepte de payer mes impôts en France. Je payais l'ISF, pour parler clair, et j'étais content. J'étais prêt à continuer à le payer.
Louis Gallois, vous avez dit le problème, c'est plus d'être compétitif, c'est d'être attractif. Qu'est-ce qui manque ?
Être attractif, c'est d'abord.
Qu'est-ce qui manque à l'industrie ?
Il y a différents problèmes. Il y a d'abord des problèmes de fiscalité. Actuellement, on peut considérer que la pression fiscale sur les entreprises, y compris les charges sociales sur les entreprises, est 10 points de valeur ajoutée supérieure à celle de l'Allemagne. Ça fait à peu près 25 milliards. Donc il est évident qu'un industriel qui veut investir, il regarde ce point. Il y a aussi les problèmes de compétences qui sont tout à fait décisifs. On ne trouve pas en France un certain nombre de compétences. J'ai visité une usine avant-hier du groupe PSA dans le Bourbonnais. Ils cherchent des électromécaniciens et n'en trouvent pas. On ne trouve pas de soudeurs. Or, ce sont des métiers qui rapportent. Moi, je le dis aux jeunes qui veulent s'engager, on gagne bien sa vie comme soudeur.
Donc, sur les compétences, il y a un plan pour les compétences.
Il y a un plan, mais il va falloir ensuite convaincre les jeunes de s'engager dans des métiers de l'industrie. Et ça, c'est ce que nous essayons de faire à la Fabrique de l'Industrie, en alimentant le débat sur l'industrie, en disant que l'industrie, c'est moderne, l'industrie, c'est passionnant, et qu'il faut que les jeunes aillent vers l'industrie.
Mais est-ce que vous nous avez aussi dit, Louis Gallois, vous êtes en train de nous dire, là, dans le contexte actuel, qu'il faudrait baisser les impôts sur les entreprises encore? C'est ça que vous êtes en train de dire?
Dans l'absolu, oui, mais aujourd'hui, évidemment, mon propos est totalement décalé. Là-dessus. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde, il y a eu un chemin fait considérable avec le CICE, avec
le
pacte
Gallois,
de responsabilité, etc. Il y a eu un chemin considérable. Bon, je suis quand même chargé de défendre l'industrie, donc je dis qu'il y a encore des étapes à franchir. Je ne pense pas qu'on va les franchir dans la semaine prochaine, c'est clair. C'est pas la priorité du moment.
Alors, vous parliez de l'ISF.
Le gouvernement, au moins.
Je vous parlais de l'ISF. Vous parliez de... On a eu débat en effet sur les riches, les pauvres. Il y a ce débat sur le salaire des hauts fonctionnaires, la justice fiscale, le salaire des grands patrons. Comment vous vous situez par rapport à ça?
Moi je pense qu'il faut, il faut garder raison dans cette affaire-là. Quand je vois qu'on stigmatise la rémunération des députés, qui est en net de l'ordre de 5000 euros, je dis que on n'est plus dans de bonnes raisons.
Là, on était sur le salaire de Chantal Jouanneau, qui est bien supérieur.
Oui, qui était
donc
15 000
voilà.
euros, oui. On a dit 20 000, c'était plutôt 15 000 si j'ai lu le journal. Bon, ce sont des salaires qui apparaissent évidemment importants pour un certain nombre de gens, mais c'est pas des salaires qui sont transgalactiques, c'est-à-dire il y a des rémunérations très élevées.
Les grands patrons, par exemple, vous décidez de la rémunération du patron de PSA.
Les grands patrons, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on veut les garder en France, parce qu'ils sont très mobiles, ça a été dit. Alors on est toujours pris entre la mobilité d'une catégorie de la population qui est la plus sensible aux éléments fiscaux et le fait que leur rémunération apparaisse totalement incompréhensible au reste des Français. Je pourrais dire la même chose pour Monsieur Mbappé ou Drogba.
Vous mettez les grands patrons un peu au niveau des footballeurs.
Oui, il y a des métiers où on gagne très bien sa vie. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas des remarques sur la rémunération de Monsieur Depardieu ou d'autres acteurs de cinéma.
Est-ce qu'il y en a beaucoup qui patrons de grandes entreprises françaises qui ne paient pas leurs impôts en France?
Je n'en sais rien. Je n'ai pas de statistiques.
Est-ce que c'est un secret de Polichinelle?
Pardon.
Est-ce que c'est un secret de Polichinelle?
Je n'en sais rien.
Que la presse découvre.
Je pense que vous avez tous les moyens d'investiguer.
Est-ce qu'il faut les obliger à payer en France, les grands patrons d'entreprises françaises?
Je trouve qu'ils devraient s'obliger eux-mêmes. Quand la création de richesse est faite en France, il faut payer ses impôts en France.
Louis Gallois, on a parlé des plus riches, mais vous voulez parler des plus pauvres. Vous dites qu'il ne faut pas qu'ils soient les oubliés de la République.
Écoutez, j'ai constaté que dans les mesures que j'ai parfaitement comprises, qu'a annoncé Emmanuel Macron le 10 décembre, pour essayer de calmer cette révolte des Gilets jaunes, aucune de ces mesures ne concerne les plus pauvres. Or, les problèmes de pouvoir d'achat, ce sont d'abord ceux des plus pauvres.
Le souci, c'est qu'il va falloir qu'ils s'expriment.
Nous allons essayer de les aider à s'exprimer pendant le débat national. Et beaucoup plus que nous-mêmes, je pense qu'il faut que ce soit les hébergés dans les centres d'hébergement, il faut que ce soit les chômeurs de longue durée, il faut que ce soit les personnes à la rue, il faut que ce soit les personnes que nous rencontrons dans les accueils de jour qui puissent s'exprimer. Parce que ce sont des personnes qui viennent de subir des baisses de pouvoir d'achat dans la période récente. La suppression des emplois aidés, la baisse des APL, la désindexation des APL et de l'allocation familiale, ça pèse d'abord sur ces populations.
Et il faudra en parler pendant le grand débat national, voilà. Nous dit Louis Gallois, industriel et président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Merci d'avoir été sur France Inter.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Sandrine Foulon, cette semaine encore, un conseil de prud'homme a refusé d'appliquer le plafonnement des indemnités prud'homales issues des ordonnances Macron. Les jours de ce barème sont-ils comptés? Ça, c'est la question de Mégane qui travaille à Paris. Et Mégane, elle envisage une action au prud'homme.
Mégane, depuis septembre 2017, ce barème est dans la loi. Il est obligatoire. Il s'applique aux salariés qui ont été licenciés de manière abusive. Si vous avez un an d'ancienneté, par exemple, vous ne pouvez prétendre qu'à 2 mois de salaire maximum d'indemnité. 10 ans de maison, c'est 10 ans de salaire, pas plus. Mais voilà, les juges prud'homaux de Troyes, d'Amiens et de Lyon ont considéré que ce barème ne permettait pas de réparer les préjudices subis par les salariés mis à la porte, surtout quand ils ont une faible ancienneté. Ce lundi, le conseil de prud'homme de Lyon a accordé l'équivalent de 3 mois de salaire à un opérateur d'une société de transport qui avait à peine un an de maison, plus que ce que prévoit le barème. Et dans ces 3 juridictions frondeuses, les juges se sont appuyés sur la charte sociale européenne et sur la convention 158 de l'Organisation internationale du travail pour contourner la loi française. Ces textes, ratifiés par la France, disent que tout salarié dont le licenciement n'est pas valable a droit à une réparation adéquate. Et c'est aux juges d'en décider. C'est leur fonction d'apprécier le préjudice et les dommages et intérêts qui en découlent. Le problème, Mégane, c'est que vous ne travaillez ni à Lyon, ni à Amiens, ni à Troyes. Votre affaire doit être jugée à Paris, qui ne s'est pas encore prononcée sur le barème. Et tout dépend, bien sûr, de ce que contient votre dossier.
Sandrine, on comprend quand même que la situation, elle n'est plus trop sécurisée juridiquement, comme on dit.
Alors, plus du tout, même certains juges prud'homaux vont balayer le barème, d'autres vont l'appliquer, comme au Mans par exemple. Il faudra attendre quelques mois pour que des affaires remontent en cour d'appel, puis surtout devant la Cour de cassation qui tranchera la question. Dira-t-elle que le barème est contraire aux conventions internationales ou pas? Les pro-barèmes plaident que d'autres pays, comme la Belgique, l'Italie ou l'Allemagne, ont mis en place ces dispositifs sans être inquiétés. Ils disent aussi qu'au niveau français, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont validé la conformité de la mesure. En attendant, Mégane, les anti-barèmes ont remporté une première manche psychologique. Il y a encore un mois, les employeurs savaient combien provisionner au centime près le coût d'un licenciement abusif. Ils ont maintenant de quoi hésiter. Les avocats qui défendent les salariés, eux, se sentent pousser des ailes, d'autant que les recours au prud'homme sont en forte baisse depuis 4 ans. C'est une petite guérilla judiciaire qui commence.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.